Magazine.
Je sais plus ce qu'il faut dire.
Magazine.
Ça va aller, ça va passer.
Je ne vais pas y arriver. Le magazine du collège André Gide.
Salut les tout le monde et salut les toutes seules aussi et tous les gens qui nous écoutent. Une fois n'est pas coutume, on n'a pas pu faire le direct aujourd'hui, mais c'est pas grave, vous nous écoutez en podcast et ça marche tout aussi bien. On est en podcast donc du côté de Goderville, comme vous le savez, pour Magagide, le magazine du collège André Gide. Avec nous un panel de chroniqueurs différents de la semaine dernière. Alors, je tiens à préciser que cette semaine, normalement, si tout se passe bien, c'est la dernière fois que je prends le micro pour présenter cette émission, parce qu'après, ça va être à vous et vous allez rouler en autonomie totale. Donc, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour de table et se dire bonjour. On va commencer par Manon et Aléna. Je vais y arriver. Salut les filles.
Salut.
Comment ça va?
Ça va.
Oh, c'est un petit ça va. C'est sûr que ça va ou...
Oui.
Allez, le micro sous le nez, on y va, on est parti là. La patate du midi. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui?
Des mini-reportages collège.
Ouais.
De Madame Leteux et de Inès.
Qui sont respectivement profs de français et...
Assistante pédagogique.
Et t'as le droit de parler dans ton micro aussi, hein, si tu veux. C'est ouvert, hein. C'est de la radio, c'est fait pour ça. Oui ou non?
Oui.
Oui, ok, j'ai eu un oui, c'est super, elle a dit oui. Ça s'entend pas hein, quand on fait oui avec la tête à la radio. On continue notre petit tour de table avec Gwenaëlle et Sayen, journée de la femme. Bonjour déjà, on va commencer par bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Bah ouais, et toi?
Oui, ça va. Oui, moi ça va super, c'est un peu speed toujours, mais ça va bien. On peut avoir un petit bonjour de Sayen quand même?
Coucou.
Voilà, un petit coucou, super. Journée de la femme en ce qui vous concerne aujourd'hui, enfin c'est pour le 8 mars.
Oui, mais comme on passe pas la semaine prochaine, comme ça...
Voilà, donc on prend un petit peu d'avance pour vous rappeler que le 8 mars, attention, il y aura ça qui va se passer. On vous rejoint dans quelques instants pour en parler. On a également, juste autour de cette table, Kélia et Eléa pour nous parler des JO d'hiver. Ça va les filles?
Oui.
Majoritairement filles aujourd'hui. Hein. Il y a... on va avoir du mal à faire de la parité. Donc JO d'hiver... On a des résultats, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça va parler de quoi dans les grandes lignes?
Des résultats et des épreuves qui s'est passé durant les JO.
Ah, alors je vais avoir besoin de ce résumé-là parce que moi j'ai absolument pas suivi, mais alors j'ai complètement zappé les JO. Donc ça va être faire du bien de faire un petit point là-dessus et on terminera avec Enzo. Salut.
Oui, salut.
Ça va bien?
Oui, ça va, très bien.
Bon, tant mieux. Il y a quelqu'un qui va bien autour de cette... On a des gens motivés. Enzo, tu vas nous faire une revue de presse?
Oui, c'est ça, exactement.
Donc, l'actu de la semaine, en gros, revisité par tes soins.
Oui, assez tragique, mais bon.
Ouais, malheureusement.
Essayer de rester positif.
Alors, il faut savoir que on a tendance, dans les infos en général, à pointer... majoritairement ce qui ne va pas, alors qu'il y a quand même des bonnes nouvelles autour du monde. Mais un jour, on fera un journal inversé avec des nouvelles que positives. Ce serait intéressant. Je suis sûr qu'on va trouver des trucs. On va pouvoir attaquer ce nouveau numéro de Magagide avec tout ce panel de chroniqueurs. Donc, on va commencer tout de suite avec Manon et Aléna pour leur petit reportage autour de la prof de français et puis la responsable pédagogique, si j'ai bien compris le truc.
Magagide
sur Radar.
C'est parti.
Donc on va commencer par Inès. Ça commence. Quel est ton métier?
Je suis assistante pédagogique. J'aide les élèves qui ont des difficultés scolaires à se concentrer, ainsi que les professeurs quand ils ont besoin pour certaines séances, activités plus manuelles.
Ton rôle dans ce collège est-il compliqué?
Il n'est pas compliqué en soi, à part lorsque les élèves refusent de travailler et deviennent méchants avec nous.
Pourquoi as-tu fait ce métier?
Pour apprendre de nouvelles choses et vivre la réelle expérience de travailler un an dans un collège avant de devenir professeur.
À quel âge as-tu commencé ce métier?
Je viens juste de commencer cette année car je viens juste de terminer mes études.
Que faut-il faire comme études pour ce métier?
un bac plus 5, il me semble, c'est un master. Je viens d'avoir le mien, spécialisé dans l'éducation en histoire, géographie, en 2021, pour devenir ensuite professeur histoire-géo, en passant un concours le CAPES.
As-tu fait ça autre part que dans le collège André-Gide ?
Non, je suis à temps plein ici.
À quel moment es-tu les surveillants ?
Le midi seulement, sinon je supervise des ateliers avec certaines classes dans leur temps d'études hebdomadaires ou encore devoirs faits le matin. Merci à Inès.
Ok, on va faire une petite pause avant d'attaquer sur la prof de français. Donc c'est une personne qui est très jeune finalement, qui sort de ses études. Et donc elle dit dans ses réponses qu'il y a des élèves qui sont méchants avec elle. Est-ce qu'elle vous a précisé un petit peu le type de méchanceté ?
Non.
Est-ce que vous imaginez justement ce que ça peut être éventuellement ? Les méchancetés qui peuvent sortir ou pas ?
Non.
C'est plus pas que oui. Hein. Est-ce que vous voyez qui c'est la personne dont on parle ? Est-ce que vous la connaissez ? Est-ce que vous la côtoyez ? Alors oui, avec la tête ça marche pas. Hein. On a pas de...
Oui.
Oui. Et donc comment ça se passe avec cette personne ?
Elle est très gentille.
Oui, donc il n'y a aucune raison d'être méchant avec.
Non. Bah, après, il y a des élèves...
qui sont bêtes.
Voilà.
Voilà. Ok, on va continuer avec notre prof de français qui s'appelle
Madame Leteux.
Madame Leteux, eh ben, on vous écoute sur ce reportage. Oui ?
Quel est votre métier ?
Je suis enseignante au collège, j'enseigne le français et les langues anciennes.
Est-ce qu'enseigner est compliqué ?
Ce n'est pas compliqué, cela demande beaucoup d'investissement personnel. Il faut sans cesse réfléchir à comment faire progresser tous les élèves. C'est passionnant, mais parfois très fatigant.
Que faut-il faire comme étude pour ce métier ?
J'ai une licence de lettres classiques.
Êtes-vous la seule professeure de latin au collège ?
Oui, mais avant nous étions deux.
Faites-vous cours dans une autre salle que la salle à deux ?
Non, c'est un luxe. J'ai beaucoup de chance de rester dans la même salle. Cela simplifie mon travail.
Que préférez-vous faire dans votre métier ?
Le contact avec les élèves, réfléchir à mes cours, je n'aime pas corriger les copies.
Combien de classes avez-vous ?
J'ai 7 classes, 3 en français et 4 groupes de LCA.
Avez-vous eu des facilités dans toutes les catégories, orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire, en une en particulier ?
J'ai beaucoup de facilités en langue en général, mais j'ai un petit problème en orthographe sur certains mots. Mais heureusement, le dictionnaire est toujours mon ami. Merci à Madame Leteux.
Merci à Madame Leteux. Et je vous annonce que nous avons repris le direct. Donc, on peut enfin nous entendre grâce à un partage de connexion via mon téléphone, comme quoi tout est possible. Voilà, si vous nous rejoignez, eh bien, c'est bien Magagide, le magazine du journal André Gide, qui a eu des petites difficultés de connexion. Mais on y est. Donc, on vient d'entendre un reportage sur la prof de français de Magagide. Absolument pas du tout, du collège André Gide. Alors elle dit que ce qu'elle n'aime pas, c'est corriger les copies. Vous imaginez un petit peu le boulot. Combien elle a d'élèves, vous savez, non ? Est-ce qu'elle a répondu à cette question-là ?
Non.
Non, parce que, je ne sais pas, on va essayer de faire une moyenne. Combien il y a d'élèves par classe en général ? Elle a combien de classes ?
7.
7 fois combien d'élèves par classe ?
Bah nous, on est 26, alors je sais pas...
7 fois 26, donc vous imaginez le nombre de copies à corriger en rentrant le soir. Forcément, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus motivant à faire. Est-ce que vous avez appris des choses autour de cette table, autour du métier de professeur ou d'accompagnement pédagogique ? toi, tu parles, toi, vas-y, prends le micro. Donc...
Bah moi, je pensais que si on était professeur, on avait des difficultés en rien, et là, c'est pas le cas. Elle a des difficultés en orthographe.
Et ouais, c'est fou ça, hein ? Comme quoi ? Est-ce que vous imaginiez ça ?
Non, pas du tout.
Alors, j'aimerais bien avoir des réponses des autres personnes qui sont autour de la table. Là, on a affaire que à des gens qui sont assez timides et qui font de la radio malgré tout. Est-ce que vous imaginiez ce genre de choses ?
Bah non, pour moi, quand t'es professeur, c'est que tu sais absolument tout
Voilà, t'as la tête pleine et tu sais tout. Voilà. Tu as le savoir absolu. Eh ben non, c'est pas le cas. On reste humain malgré tout. On va continuer. Merci en tout cas les filles Manon et Aléna pour ces deux reportages sur lesquels on apprend les métiers autour de l'éducation. On va tout de suite se tourner du côté de Gwenaëlle et Sayenne qui nous ont préparé un petit article sur la journée de la femme qui va se dérouler le 8 mars. On vous rappelle qu'on a repris enfin le direct. Donc si vous voulez nous écouter, eh ben, vous êtes les bienvenus. Et tout de suite, c'est Gwenaëlle et Sayenne.
Magazine
sur Radar.
Au début du XXe siècle, les femmes de tout pays militent pour faire connaître leurs droits. À cette époque, démarre la lutte pour la reconnaissance du droit de vote des femmes, mais également la lutte des ouvrières qui souhaitent de meilleures conditions de travail et l'égalité entre les hommes et les femmes. Les femmes se soulèvent afin d'obtenir la reconnaissance de droits jusqu'alors donnés uniquement aux hommes. C'est dans ce contexte révolutionnaire que sera créée la Journée internationale des femmes.
Et on est arrivé à la fin de la chose.
C'est très rapide.
Ah, d'accord, c'est du rapide. Écoutez, moi, je vous avoue franchement que j'essaye de résoudre des petits problèmes techniques en même temps. Donc j'ai pas tout entendu. Est-ce que vous connaissiez la journée de la femme? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que c'est important de le faire? Est-ce que vous voyez pas l'intérêt? Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative?
Moi, je connaissais pas.
D'accord. Et est-ce que tu trouves que c'est bien?
Ça va.
Ça va. Est-ce qu'on peut développer un petit peu la réponse? C'est-à-dire, ça va dans quel sens? Ça va dans le bon sens?
Ça va dans le bon sens.
Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte à la société, ce genre de journée-là? Alors, Enzo.
Bah, pour que les hommes et les femmes soient égaux, bien sûr.
Ouais. Alors, est-ce qu'on considère que les femmes sont toujours pas égaux?
Dans certains pays, par exemple, les femmes n'ont pas le droit de voter, ou il y a des lois qui sont contre les femmes.
Oui, bien sûr, ouais.
Et je crois que en Afghanistan, ouais, avec les talibans, ils refusaient que les femmes sortent de leur habitation et devaient rester pour faire les tâches ménagères. Donc les
voilà.
Femmes sont sous-estimées.
Alors on parle bien de pensée extrémiste à la taliban, comme tu le précises. Donc il y a des choses, mais même au-delà des pensées extrémistes, on a un souci de parité, et ne serait-ce que dans l'égalité des salaires, par exemple. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a entre, je crois c'est 15 ou 20%, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais 15 ou 20% en moins sur les salaires des femmes par rapport aux hommes qui font les mêmes métiers. Est-ce que vous étiez au courant de ce genre de choses, par exemple?
Moi, non, j'étais pas au courant.
Alors voilà, et donc qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu vas gagner, si les choses ne changent pas, 15 à 20% de moins qu'un homme qui fera la même chose que toi?
Je trouve pas ça juste.
Bah non, pas vraiment, hein. On est d'accord. Enzo, toi, ça te plaît de gagner plus que les femmes?
Non, vu qu'on fait le même métier, on fait les mêmes efforts pour travailler, donc on devrait avoir le même salaire.
Voilà, on est plus dans la parité qu'autre chose. Et puis, la place de la femme dans le monde, évidemment. Alors là, ça commence doucement à bouger. Il y a des petites choses qui se mettent en place, mais c'est pas encore tout à fait ça.
Ouais. Par exemple, c'est la première fois, je crois, que cette année, il y a eu une présidente aux États-Unis.
Ouais.
Quand Joe Biden s'est fait opérer, Kamala Harris, la vice-présidente, est devenue présidente pendant quelques heures.
Voilà.
Et c'était une première dans l'histoire américaine.
Alors, dans l'histoire américaine, effectivement. Par contre, partout dans le monde, et là, on s'en rend compte, justement, avec le conflit armé qui oppose l'Ukraine et la Russie, avec des présidentes européennes qui prennent la parole. On a trois, et puis la présidente de l'Europe actuelle qui est une femme aussi. Donc petit à petit, ça commence à bouger. Oui, alors j'ai un œil inquisiteur par là. on me dit que non dans l'oreillette. Alors est-ce que tu peux t'approcher du micro, parce que sinon je vais avoir un blanc antenne et on va pas comprendre. Donc Madame Friboulet de la bibliothèque
du CDI,
pardon.
Tu parlais de la présidence européenne?
Oui.
Oui, c'est Monsieur Macron actuellement.
Oui. Alors attends, qui est-ce qui a parlé au nom de l'Europe pour les restrictions budgétaires par rapport à la Russie? On a une femme là ces derniers temps.
Oui, alors,
est-ce qu'on peut faire une recherche rapide de la chose? Ouais, Enzo,
je crois que c'était la présidente de la présidente de la Suisse.
Du Parlement?
Oui, de la Suisse.
Ah non, 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 je pense que c'est le Parlement européen, parce que la Suisse, elle n'est pas dans le... Et pas dans le cercle. Mais ouais, enfin voilà, on s'y perd un petit peu. Mais comme quoi, hein, vous voyez, même au niveau... On connaît les présidents européens pour la plupart, ou les rois, ou etc., quand on parle de l'Espagne ou de la Belgique. Mais quand il s'agit de commencer à chercher qui est la femme présidente, machin, on n'a pas les noms, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas la fonction. Donc il y a encore un gros effort à faire à ce niveau-là. On va clore ce sujet, on en reparlera peut-être plus précisément le 8 mars. Voilà. Et puis bah, on va continuer notre magazine on va se tourner vers Kélia et Eléa. Pour les JO d'hiver, avec un petit rappel des faits et puis tout ce qui a pu se passer là-bas.
Magagilde
sur Radar.
Les Jeux Olympiques d'hiver commencent le 4 février et se terminent le 20 février. Les Jeux Olympiques ont été inventés par Pierre de Coubertin en 1913. Le symbole olympique se compose de 5 anneaux entrelacés qui expriment l'activité du mouvement olympique. Il représente l'union des 5 continents et la rencontre des athlètes du monde entier aux Jeux Olympiques.
Les couleurs des anneaux représentaient les couleurs de tous les pays en 1913. Quelques mois avant l'ouverture des Jeux Olympiques, une flamme est allumée à Olympie, en Grèce. Tout au long du parcours, la flamme annonce les Jeux Olympiques et transmet un message de paix et d'amitié au peuple. Le relais de la flamme prend fin lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Le dernier relayeur fait son entrée dans le stade et allume la vasque avec la flamme olympique. Les Jeux peuvent alors commencer. 7 nouvelles épreuves font leur entrée au programme des Jeux à Pékin cette année.
Le snowboard cross par équipe mixte. Chaque équipe est composée d'une femme et d'un homme. Et en premier, les hommes s'affrontent 4 par 4 sur une piste d'obstacles. Ensuite, c'est au tour des femmes. Les 2 meilleures équipes en chaque série accèdent en demi-finale. Seulement 4 équipes peuvent se qualifier pour la finale.
Le saut acrobatique par équipe mixte, cette épreuve n'est pas totalement nouvelle. Elle était déjà présente depuis 2014 à la Coupe du Monde et en 2019 au Championnat du Monde. Chaque équipe est composée de 3 skieurs avec au moins un homme et une femme. Les notes de chaque skieur sont additionnées et l'équipe qui obtient le plus grand score l'emporte.
Le saut à ski par équipe mixte, elle figure au programme de la Coupe du Monde depuis 2013. Chaque équipe est composée de 4 skieurs, dont 2 femmes et 2 hommes. Une manche d'essai et 2 manches de compétition sont organisées. Les 8 meilleures équipes de la première manche se qualifient pour la deuxième.
Le relais mixte du short track, chaque équipe est composée de 4 athlètes, dont 2 femmes et 2 hommes d'un même pays. Les équipes s'affrontent lors d'un relais. Chacun fera 15 tours de piste. Les athlètes feront chacun 2 passages sur la glace. Les patineurs engagés dans cette épreuve doivent être qualifiés pour les épreuves individuelles ou pour les relais hommes ou femmes. À Pékin, toutes les courses du relais mix ont eu lieu dans la soirée du samedi 5 février.
Le monobob féminin, dans cette épreuve, tous les coureurs utilisent le même engin profilé, se terminant par 2 larges ailettes sur les côtes. Les participants n'ont donc pas la possibilité de perfectionner leur luge pour leur rendre plus rapide. Ils doivent uniquement se concentrer sur le pilotage.
Le ski Big Air masculin et féminin, cette épreuve consiste à réaliser un maximum de figures après avoir sauté d'un tremplin. Les participants passent 2 fois et sont notés par des juges. La meilleure des 2 notes est retenue. La finale rassemble ensuite les 12 meilleurs skieurs et chacun passe 3 fois. L'atterrissage compte beaucoup dans la note.
En tête du classement, nous retrouvons la Norvège avec un total de 37 médailles. La deuxième place est attribuée à l'Allemagne avec un total de 27 médailles. Et enfin, la Chine ferme le classement du podium avec un total de 15 médailles. Et nous, la France, nous atterrissons à la 10e place avec un total de 14 médailles, donc 5 en or, 7 en argent et 2 en bronze.
Quentin Fillon-Maillet est l'homme le plus médaillé de France au biathlon et aussi le premier athlète français à avoir gagné 5 médailles dans les mêmes Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en 2022. Et il est aussi l'un des 3 Français à avoir totalisé un record de 5 podiums dans une seule édition.
Merci les filles pour l'ensemble de ces précisions. Alors c'est-à-dire que nous, en France, malgré le domaine skiable dont on peut bénéficier entre les Alpes, les Pyrénées, etc., on se retrouve quand même 10e place, alors c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel non plus. Je pense qu'on pourrait dire peut mieux faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion?
Oui.
Ouais, peut mieux faire quand même. Par contre, bizarrement, par rapport à tout ce qui est suédois, etc., on est très très fort en biathlon, en choses comme ça, grâce justement à la personne que vous avez citée. Alors, je connais pas les noms, moi, je suis pas une.
C'est Quentin Fillon-Maillet.
Voilà, Quentin Fillon-Maillet qui représente fièrement cette discipline. On est plutôt balèze. Et puis j'ai eu le seul truc moi que j'ai entendu, dont j'ai entendu parler pendant ces JO d'hiver, c'est l'accident de Bob qui a eu à un moment, justement, on parlait de la difficulté de piloter ces engins-là parce que ça va à une vitesse complètement dingue. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu, enfin, ça a été juste blessé léger a priori. Et donc voilà, il y a eu, enfin, c'est le seul truc dont je me souviens moi. Est-ce que vous avez regardé vous autour de cette table un peu les JO cette année?
Non.
Vous n'avez pas pris le temps? Est-ce que vos parents sont impliqués là-dedans ou pas?
Moi, j'étais parti en vacances, donc j'ai pas trop suivi l'actualité.
D'accord. Non plus. Ça parle pas, ça dit rien, ça veut pas. Bon, eh ben c'est pas grave. En tout cas, merci pour ce point sur les sports. On va terminer très très vite parce que ça va sonner dans vraiment pas longtemps avec Enzo et la revue de presse.
Magazine.
Sur Radar.
Et juste avant qu'Enzo ne reprenne l'antenne, je précise que la présidence de la Commission européenne, c'est Ursula von der Leyen dont on parlait tout à l'heure. Et je remercie donc Madame Frigouli du CDI d'avoir fait la recherche. Enzo, c'est à toi.
Donc je vais essayer de rester assez positif avec...
Allons-y. De toute façon, il faut bien faire avec les nouvelles comme elles arrivent.
Donc un titre revient souvent dans la presse aujourd'hui, l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Ce sujet envahit toutes les unes des journaux en ce moment. L'Ukraine, l'impensable, titre le courrier international. Kiev est pris pour cible par Vladimir Poutine. Celui-ci a placé plus de 200 000 soldats russes aux portes de l'Ukraine. Et la semaine dernière, se dirigeait vers l'Ukraine un convoi militaire de plus de 60 km. Poutine met la main sur une partie de l'Ukraine à la une du Monde, Vlad l'envahisseur, aussi à la une de The Spectator. Autant dire que le nom du président russe, ou plutôt dictateur russe, revient souvent sur la première page des journaux ce jour. Il est voué pour l'invasion et ne compte pas s'arrêter à l'Ukraine et veut passer à l'offensive en Europe suite aux nombreuses sanctions mises en place contre la Russie dans les sports, notamment aux JO d'hiver. La Chine sceptique face à son alliance avec la Russie car Xi Jinping, président du pays, n'accepte pas une autre guerre mondiale et la crise politique et économique qui suivrait. L'axe Moscou-Pékin à l'épreuve de la guerre, titre le courrier international. Monsieur Xi Jinping, président chinois, et Monsieur Vladimir Poutine ont un avis totalement opposé sur l'expansion de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et autre triste nouvelle dans l'actualité, Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur du 13h de TF1, est mort à la une du Figaro. L'information a été divulguée par l'AFP hier, l'agence française de presse, avant d'être en première page des journaux. En effet, l'ancien mythique animateur du JT de 13h sur TF1, Jean-Pierre Pernaut, s'est éteint ce mercredi à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer des poumons, nous raconte La Dépêche. Après 33 ans de carrière chez TF1 et après avoir vaincu un cancer de la prostate quelques mois auparavant, il aura succombé à la maladie. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'actualité en ce début de mars. Merci de m'avoir écouté.
Merci à toi Enzo et on se joint à la douleur de la famille de Jean-Pierre Pernaut bien évidemment, ainsi qu'à l'ensemble des douleurs du peuple ukrainien qui subissent les attaques vraiment frontales de la Russie. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu, est-ce que vous suivez cette actualité-là en ce moment? Je pense que c'est difficile de ne pas y couper.
Oui.
Ouais. Et alors un avis chacun rapidement sur la chose. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça, de vivre ça? Est-ce que vous pensiez à ça il y a quelques jours encore?
Non.
Ok. Alors il va falloir vraiment que vous appreniez à développer vos réponses parce que des oui et des non, ça c'est. Je me doute que vous avez des oui et des non, mais je voudrais savoir vraiment ce que vous en pensez, Enzo.
Je trouve qu'on a du mal à croire qu'un homme puisse vouloir la mort de plusieurs centaines de milliers de
personnes.
De personnes et vouloir envahir un pays alors que il est indépendant et voilà.
Ok. Donc ça c'est Le regard d'Enzo, est-ce que tu as une chose à rajouter ?
Bah, en fait, c'est dur de ne pas suivre parce que quand on allume la télé, si la 6 ou d'autres, ça parle directement de la guerre. Donc, c'est dur de ne pas suivre.
C'est dur de ne pas suivre. Mais est-ce que vous, ça vous atteint directement ? Est-ce que vous n'avez pas envie qu'on vous en parle ou au contraire, est-ce que c'est important qu'on vous en informe ? C'est une bonne question, ça.
C'est effrayant, quoi.
Ça
fait peur.
Dans l'ensemble, ça vous fait peur. Est-ce que c'est la guerre qui vous fait peur ou est-ce que c'est la manière dont l'information est traitée qui vous fait peur ? Il y a une différence entre les deux.
Comment l'information est traitée, c'est assez... c'est traité de manière tragique.
Ouais.
On parle pas des côtés positifs quand
ça
aussi,
l'est.
Voilà.
Ça l'est effectivement, mais effectivement, comme tu le dis bien, et on va s'arrêter là. Il y a des côtés positifs. On arrive à réduire les effets économiques. Le rouble est en train de s'effondrer en Russie, donc il y a une grosse crise. Là, ils se sont retirés de la bourse. Il y a plus d'économie en Russie. Pékin, comme tu le disais, se rallie pas à la cause de Vladimir Poutine parce que malgré tout ce qu'on peut penser de Xi Jinping, il est pas pour la guerre, lui. Il a aucun intérêt à tuer des gens. Donc c'est déjà un point positif aussi. Je pense qu'il faut voir aussi ce genre de petites choses là. Et puis il y a la coalition internationale, la coalition européenne aussi qui est contre ces mouvements là. Après voir si de son côté Vladimir, qui n'a plus rien à perdre, ira jusqu'au bout de sa pensée ou au contraire finira par prendre raison. On ne sait pas. Le problème de l'information, c'est qu'en fait on extrapole et on invente des scénarios en se disant « Ah, il peut peut-être faire ci » ou « Ah, il va peut-être se passer ça ». Mais comme on est rien, sûr de rien, en attendant, on ne sait pas de quoi sera fait l'heure ou demain, que ce soit pour vous tous comme pour n'importe qui. Donc, ça sert un petit peu à rien d'extrapoler et je pense que c'est ça qui vous fait peur. On va peut-être conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir rédigé l'ensemble de vos chroniques. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le premier groupe, avec un nouvel animateur. Ce sera plus moi au micro. Et donc là, ça va être le grand bain aussi. On vous souhaite bien la bonne journée à l'écoute des programmes de Radar. N'oubliez pas, samedi prochain, concert à la salle de l'Union avec Royal Company et les Enfants Rouges. C'est à partir de 20h, c'est 5€. Vous allez sur les réseaux, vous allez nous trouver forcément à ransort.com et vous pouvez réserver vos places. Il y a de la restauration et du bar et de la bonne musique. Et ça va nous faire du bien aussi de voir des concerts dans la région. Ciao à tous, bonne journée, salut.
Le nom d'émission qui a été choisi, Magazine.
Je sais plus ce qu'il faut dire.
Magazine.
Ça va aller, ça va passer.
Je vais pas y arriver. Le magazine du collège André Gide.